Europe 1, 14h-15h, clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la place des plateformes dans l'univers du 7e art. Vous les connaissez désormais, Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+. Elles se multiplient en ce moment et voient leurs audiences exploser, en profitant notamment du confinement et de la fermeture des salles de cinéma. Et alors que Mulan, par exemple, initialement prévu pour sortir en salle, sera disponible dans quelques jours sur Disney+, le gouvernement français est en train de plancher pour les obliger à financer la création. Alors ces plateformes vont-elles tuer nos salles ou au contraire sauver la création cinématographique? Ce sera l'objet de notre récit et nous en parlerons avec Jean Labadie, producteur et distributeur de films, qui a cédé lui aussi aux plateformes qu'il dénonçait il y a encore quelques mois. Il sera dans le studio de Clap. 14h30, les films de ma vie. Et à quelques jours de la proclamation du Goncourt, c'est l'un des finalistes, grand favori, Hervé Le Tellier, qui nous racontera ses souvenirs de cinéma et tous les films qui l'ont marqué. Et puis juste après, on accueillera nos critiques pour débattre des films sortis sur ces plateformes, justement, ainsi qu'en DVD, VOD, avec au programme cette semaine Madré, La Voix du Succès, le documentaire Petite Fille et le dernier film de Ron Howard. Ça vous donnera des idées de films à regarder ou non pendant ce confinement. Voilà pour le programme de votre émission cinéma, Clap, et tout de suite donc, notre récit consacré aux plateformes. Vont-elles tuer ou sauver le cinéma ?
Europe 1. Le récit.
Rappelez-vous, c'était seulement il y a un peu plus de 6 ans, le 15 septembre 2014, les Français découvrent l'existence de Netflix. Il y a aussi le storytelling qui va avec, l'histoire de cette petite entreprise qui a commencé par louer des DVD envoyés par correspondance avant de devenir cette plateforme aux ambitions mondiales. Alors les médias s'en emparent, son arrivée fait le buzz, mais déjà le milieu du cinéma crie à la concurrence déloyale. D'abord, Netflix ne paie pas ses impôts en France. Et puis, déjà, est avancée cette idée que les Français vont préférer rester assis dans leur canapé plutôt que d'aller au cinéma. Les patrons de chaînes de télévision, eux, ne sont pas très inquiets. Xavier Couture, ancien patron de Canal+, était alors l'invité d'Europe 1.
Je pense qu'on a un peu diabolisé Netflix comme s'ils avaient déjà 50 millions d'abonnés en France. Qu'ils commencent à avoir leurs 100 premiers 1000 abonnés, puis après on en reparlera. Je crois qu'il y a une tradition française, il y a une production française, il y a des moyens en France. Donc je pense qu'il y a des moyens de répondre à une attaque de Netflix qui aujourd'hui est un peu surestimée à mon sens.
Alors c'est vrai qu'elle revient depuis longtemps, cette petite musique de la mort du cinéma. À l'arrivée de la télévision, puis à l'arrivée de la VHS, puis à l'arrivée du DVD, puis à l'arrivée de la VOD. Et pourtant, les Français vont toujours autant au cinéma, et même plus. 2016, par exemple, a été une très bonne année, avec 213 millions d'entrées au compteur. Alors Netflix va se faire sa place, petit à petit, entre 2016 et 2019. Chaque année, il y a la polémique. Cannes, le festival, peut-il sélectionner des films Netflix ? Il y a aussi le premier symbole, Roma, d'Alfonso Cuarón, grand favori des Oscars, alors qu'il n'est sorti dans aucune salle en France, très peu aux États-Unis. Et pourtant, en 2019, les salles hexagonales ont signé leur troisième meilleure année en 50 ans. 2019, c'est aussi l'année où se lancent d'autres plateformes. Prime Video, créé par le géant Amazon, Apple TV, puis Disney+, en avril de cette année. En 2019, pourtant, les résultats des salles de cinéma françaises sont exceptionnels, avec une progression de 6% des entrées. Ça donne la troisième meilleure performance depuis 1966. Pourtant, c'est cette même année que d'autres plateformes apparaissent, je le disais. Et tout le monde semble plus ou moins y trouver son compte. Mais les chaînes françaises commencent à réagir. Canal+ renouvelle sa plateforme MyCanal, Orange lance OCS, et le mois dernier, TF1, France Télévisions et M6 s'entendent pour créer Salto, une plateforme payante qui agrège les contenus des trois groupes. Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, en parlait au micro d'Europe 1.
Je crois que l'idée de Salto, c'est de faire une plateforme qui aujourd'hui n'existe pas. Aujourd'hui, si vous voulez regarder une série qui a été diffusée il y a très très longtemps ou les saisons précédentes, la seule solution c'est d'aller sur Netflix. Eh bien, ce que nous voulons faire avec TF1 et M6, c'est précisément construire cette plateforme qui permettra d'exposer un catalogue beaucoup plus large que ce qu'on propose aux téléspectateurs.
Alors boosté par un premier mois d'abonnement offert et une grosse campagne de communication, Salto semble avoir réussi son lancement, mais reste loin du nombre d'abonnés affiché par Netflix notamment. Et ce retard va être très dur à combler. Car aujourd'hui, ces plateformes ne se contentent plus de rediffuser d'anciens films, comme lors de leur lancement. Elles achètent des productions en exclusivité, voire même en produisent. Netflix est par exemple devenu le client numéro 1 du cinéma français à l'international. Même mouvement dans le cinéma mondial. Le dernier film des frères Coen, La balade de Buster Scruggs, en exclusivité sur Netflix. On a parlé de Roma aussi d'Alfonso Cuarón, une chronique familiale dans le Mexico des années 70, refusée par les producteurs et distributeurs historiques en raison de son côté trop austère. Le film sortira quand même dans quelques salles aux États-Unis afin de pouvoir être en compétition aux Oscars. Il repartira avec 3 statuettes, dont celle de meilleur réalisateur. Roma, qui s'est vu retirer de la compétition à Cannes quelques mois plus tôt en raison de son refus de sortir dans les salles françaises, puis qui a été aussitôt récupéré par le Festival de Venise. Il est reparti avec le Lion d'Or. Netflix s'impose donc comme un nouvel acteur incontournable de l'industrie du cinéma. Écoutez ce qu'en disait Pierre Lescure, le président du Festival de Cannes.
C'est un film extraordinaire d'Alfonso Cuarón. C'est un film que beaucoup de gens qui l'ont aimé sur Netflix auraient voulu voir aussi sur grand écran. Ce noir et blanc, on avait envie de le voir dans un cinéma.
Alors d'autres grands réalisateurs emboîtent le pas d'Alfonso Cuarón. C'est ainsi que pour produire son nouveau film, Martin Scorsese se tourne lui aussi vers la plateforme et s'en explique au micro d'Europe 1.
D'abord, il n'y a plus de salle de cinéma. Et puis, ils peuvent être une chance, étant donné les profits qu'ils réalisent. Le plus important, c'est qu'on puisse continuer à faire des films.
On peut aussi citer le dernier film de Sofia Coppola, sur Apple TV, le dernier Borat, ça c'est sur Prime Video, le début d'une longue liste. On découvrira notamment l'année prochaine sur Netflix, le nouveau film de Guillermo del Toro, Pinocchio.
Si Pinocchio avait pu être financé par Warner, par Sony, par Universal, j'en aurais été très heureux. Mais tous ces studios ont décliné. Vous savez, le monde est en train de changer. Quand le son est arrivé, les gens ont dit « c'est la fin du cinéma ». Quand la télé est arrivée, c'est la fin du cinéma. Quand les blockbusters ont débarqué, c'était la fin du cinéma. Et le cinéma est toujours en vie.
Il faut dire que ces plateformes n'hésitent pas à mettre les moyens et laisser une totale liberté aux réalisateurs pour les séduire. Mais revenons en France avec ce nouveau coup de grâce lors du premier confinement. Des films dont la sortie en salle a été annulée ont été achetés puis diffusés directement sur les plateformes. Exemple avec Forte, signé Mel Rabedia, présenté pourtant au Festival de l'Alpe d'Huez. Il devait sortir le 18 mars et s'est retrouvé directement sur Prime Video. Mel Rabedia en parlait sur Europe 1.
C'est un soulagement qu'on ait pu s'adapter à la situation qui est complètement inédite. On n'avait jamais vécu
c'est
ça.
Sûr.
Moi, je m'attendais à me battre contre un James Bond, avoir 3 entrées comme d'autres films français qui ne méritaient pas d'avoir 2 entrées. Mais là, c'était complètement inédit. Et donc, je suis hyper contente qu'on soit obligé d'aller dans les salons des gens.
Et ce premier confinement a aussi exacerbé les tensions entre les plateformes et le milieu traditionnel du cinéma. Car en France, les chaînes de télévision doivent financer le cinéma. Cela fait partie de leurs obligations. Pas les plateformes, c'est la fameuse exception culturelle défendue notamment par le réalisateur Éric Toledano, désormais vice-président du Centre National du Cinéma. C'est en tout cas ce qu'il a demandé à Emmanuel Macron.
On est venu lui dire qu'il y avait quand même des paradoxes étranges. Donc dans cette période de confinement où tous nos concitoyens passent beaucoup de temps devant les fictions, devant les films, devant les plateformes qui, contrairement à d'autres acteurs du secteur, n'ont aucune obligation d'investir ou de financer le cinéma français. Et il s'est engagé fermement à ce qu'au 1er janvier, cette loi soit votée et qu'il y ait des obligations pour les plateformes pour que demain, on ne retrouve pas un cinéma qui a un genou à terre et des plateformes qui s'enrichissent de la même manière que Canal+ ou d'autres chaînes de télé ont des obligations et qui sont le poumon du cinéma français.
Avant le 1er janvier, un délai qui paraît difficile à tenir car c'est toute la chronologie des médias, c'est-à-dire les délais entre la sortie d'un film en salle et sa disponibilité en DVD, VOD, puis sur les chaînes payantes, puis sur les chaînes gratuites. C'est toute cette chronologie qui doit être revue. Ironie de l'histoire, certaines plateformes ne peuvent même pas diffuser en France leurs propres films. C'est le cas de Disney+, par exemple, qui promettait dans son offre l'intégralité des Disney. Sauf qu'en raison de cette chronologie, ils ne peuvent pas proposer La Reine des Neiges numéro 2, sortie il y a seulement un an, alors que La Reine des Neiges numéro 2 est bien sur le catalogue dans tous les autres pays du monde. Pierre Lescure parlait de ce rapprochement inévitable et nécessaire au micro d'Europe 1.
Disney est une société qui connaît très bien la France, qui travaille très très bien avec la France, au-delà d'Euro Disney, qui a toujours protégé les salles, protégé ses films. Mm-hmm. Je pense que le géant Disney va faire beaucoup pour que se rapprochent les points de vue de ceux qui défendent la salle, nous en sommes, nous, au Festival de Cannes, et en même temps, ceux qui savent que les plateformes, c'est une modernité de consommation pour tous les films qu'on n'a pas le temps d'aller voir en salle.
Pour calmer la grogne des deux côtés, le ministère de la Culture a donc engagé des négociations sur le sujet. Les plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney+, devraient investir entre 20 et 25% de leur chiffre d'affaires réalisé en France dans la production d'œuvres françaises ou européennes, c'est-à-dire des séries, des téléfilms, des films. Cela représenterait 300 millions d'euros de plus pour la production française. En contrepartie, elles auraient le droit de proposer des films plus tôt dans leur catalogue, proportionnellement à leur investissement. Moins d'un an pour celles qui investissent 25%, par exemple, 2 ans pour celles à 20%. À l'heure où je vous parle, rien n'est encore officiellement signé, mais la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a déclaré qu'elle voulait un accord qui serait une révolution digne de la loi de 1981 sur le livre, loi qui imposait un prix fixe. Alors qu'est-ce que ça implique? Pourra-t-on voir des films Netflix ou Amazon au César par exemple ou à Cannes? Est-ce que c'est une bonne réforme? Qu'en pensent les acteurs de l'industrie du cinéma? Eh bien on en parle dans un instant avec notre invité Jean Labadie, l'un des plus gros producteurs et distributeurs de cinéma en France. C'est dans une toute petite poignée de secondes dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. Mais d'abord on va s'écouter un petit peu de musique, funky d'ailleurs. C'est la bande originale de Forte, disponible sur Prime Video, signée Fat Larry's Band, Act Like You Know. Vous êtes bien sur Europe 1. Yeah, you wanna know, act just like, act just like you know. Whoa, you just ought to know. Yeah. Original du film Forte de Melra Bedia que vous retrouvez sur Prime Video. Dans un instant, on se retrouve pour la suite de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. On continuera à vous parler de comment toutes ces plateformes sont en train de chambouler le milieu du cinéma avec notre invité Jean Labadie, producteur et distributeur de films.
Clap, Mathieu Charrier.
Et dans Clap aujourd'hui, on s'intéresse donc à la question des plateformes Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV, pour faire simple. Vont-elles tuer ou sauver le cinéma? Et pour poursuivre notre réflexion, je suis heureux d'accueillir Jean Labadie, producteur et distributeur de cinéma. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête du Pacte, à qui l'on doit notamment Les Misérables de Ladj Ly, les films de Ken Loach, de Mai Wen, de Desplechin et de tant d'autres. Je ne vais pas faire la liste. Et je voulais discuter avec vous, Jean Labadie, parce que lors du dernier confinement, vous avez revendu l'un de vos films, Pinocchio de Matteo Garrone, à Amazon. Ça, on va y revenir. Mais d'abord, 6 ans après son lancement, est-ce que vous pensez que Netflix et ses concurrents ont complètement chamboulé le milieu du cinéma?
Je pense que Netflix a sûrement chamboulé le milieu du cinéma dans beaucoup de pays, mais peut-être beaucoup moins en France, parce que nous sommes protégés par une chronologie des médias qui fait que les films de cinéma, avant d'arriver sur une plateforme, pour l'instant, nécessitent 3 ans d'attente. Et donc le système français, de ce côté-là, a pas mal protégé le cinéma, sachant que malgré l'augmentation énorme et la réussite de Netflix en France, les entrées cinéma en 2019, qui est une année où on n'a pas souffert du Covid, était de 220 millions d'entrées, c'est-à-dire 2 fois plus que tous nos pays voisins. Donc pour l'instant, le cinéma reste extrêmement vivant et je pense que ce sera le cas pour longtemps en France.
Vous parlez de la chronologie des médias et c'est un point important parce qu'effectivement aujourd'hui, une plateforme doit attendre 3 ans avant de pouvoir proposer un film qui est sorti en salle, sauf que on leur demande et on va leur demander de financer la création au même titre que les chaînes de télévision et qu'en échange, on va leur permettre sans doute de raccourcir ce délai. Est-ce qu'il n'y a pas là un danger ?
Alors, d'abord, on ne sait pas encore quelle est la proportion d'argent qui sera destinée au cinéma et quelle est la proportion d'argent qui sera destinée à l'audiovisuel. Il semble, mais ce ne sont que des conversations que nous avons eues avec des plateformes, il semble qu'elles soient beaucoup plus demandeuses, en fait, de pouvoir investir leurs moyens dans des séries télé que dans des films. Et évidemment, en fonction de la manière dont elles investiraient plus ou moins dans les films, elles auront une chronologie plus ou moins favorable. Donc on est en attente de savoir quelles sont leurs demandes. Par ailleurs, il est évident que l'arrivée de financements nouveaux, c'est plutôt une bonne chose dans une période où les télévisions sont un peu en difficulté, les télévisions publiques, et où un peu de supplément d'argent qui rentrerait pour le cinéma, ça ne peut pas être totalement mauvais pour nous.
Ces plateformes, on les a beaucoup critiquées, le milieu du cinéma les a beaucoup critiquées, et en même temps, au premier confinement, on a vu plusieurs films, je pense à Ford, je pense à Pinocchio, qui était un film que vous aviez acheté, on a vu plusieurs films se vendre aux plateformes, c'est-à-dire que Pinocchio devait sortir en salle, confinement, les salles fermées, plutôt que d'attendre, vous vous êtes dit, je le vends le film à Amazon. Pourquoi ? Et est-ce que finalement, à ce moment-là, on n'a pas été content de les trouver, ces plateformes ?
Moi, j'avais sorti... Enfin, Pinocchio devait sortir le mercredi qui a suivi le confinement. Et donc, on avait un investissement aux alentours de 2 millions d'euros. Malheureusement, c'est un film sur lequel il aurait fallu donc trouver une nouvelle date. On a d'abord pensé à le sortir en juillet. Et quand on a compris que malheureusement, ce serait pas... les salles ne réouvriraient pas avant au mieux... mi-juillet ou même on annonçait à un certain moment fin août, il est évident que pour sauver la trésorerie de mon entreprise, j'étais obligé de vendre le film à Amazon et je ne pouvais pas faire autrement. Je voudrais rappeler que je distribue des films depuis 1978 et que au total j'ai dû en distribuer plus de 1000 et donc il y en a un qui a été vendu à une plateforme. Alors je sais que d'un coup ça devient quelque chose d'essentiel, mais c'est quand même extrêmement marginal. Et croyez-moi, pour moi, la place du cinéma dans les salles, c'est essentiel et fondamental. C'est là que ça crée sa valeur. Et je crois que je ne changerai pas d'avis là-dessus.
Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller plus loin maintenant ? C'est-à-dire qu'il faut accepter le fait que peut-être un film peut sortir en salle et 15 jours, 3 semaines plus tard, être disponible sur les plateformes, que le public qui veut aller le voir en salle puisse aller le voir en salle et que le public qui veut le voir dans son salon, sur sa télévision, puisse le regarder. Est-ce qu'on a besoin de garder comme ça des délais de plusieurs mois ou plusieurs années ?
Je crois que l'avantage de garder des délais, pas de plusieurs mois, le type de chronologie qui existe aujourd'hui en France, a l'avantage de préserver les salles. Et on se rend compte que dans les pays où il n'y a pas où la chronologie n'existe pas, et où les entrées en salle ont diminué de manière extrêmement forte, les cinémas nationaux ont quasiment disparu, et les cinématographies un tout petit peu différentes des blocs sont devenus inexistants.
Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, certains cinéastes, notamment Scorsese, des grands cinéastes, disent qu'ils trouvent de la liberté sur ces plateformes, de la liberté de financement, qui financent sans trop regarder leur scénario, ce qui n'est plus le cas dans le milieu du cinéma. Donc est-ce que ce n'est pas aussi ces plateformes qui sont en train de sauver une certaine forme de créativité ?
Vous remarquez quand même que les plateformes, pour l'instant, elles découvrent des cinéastes que nous, on connaît depuis 40 ou 50 ans. Donc, je veux dire, franchement, l'important dans le cinéma, et c'est qui fait qu'à mon avis, les plateformes vont bouger, c'est qu'il faudra,
quand la concurrence sera totale entre HBO, Warner, Amazon, Apple, etc., etc., il faudra faire connaître les films et on ne pourra pas simplement se reposer sur 3-4 marques, Cuaron, Scorsese, etc. Il faudra avoir des découvertes. Et ces découvertes, ce qui est évident, c'est que c'est les salles qui les font, parce que si vous regardez aujourd'hui, si vous lisez les quotidiens, la presse en général, si vous verrez que les films qui se passent sur Netflix, qui ne sont pas justement Scorsese ou Cuaron, eh ben on n'en parle quasiment jamais. D'ailleurs, je regrette que les critiques ne les critiquent pas, parce que ce serait intéressant de démontrer à quel point ce ne sont peut-être pas exactement les chefs-d'œuvre pour lesquels on leur fait croire qu'il faut s'abonner.
Et ce sera ma dernière question. On a beaucoup parlé au moment de l'arrivée de la télévision, de la mort du cinéma, au moment de l'arrivée de la VHS, au moment de l'arrivée du DVD, là maintenant c'est au moment de l'arrivée des plateformes. Qu'est-ce qu'il en est, et surtout, est-ce que c'est une énième étape ou est-ce que c'est l'étape de trop ?
Écoutez, moi j'ai commencé Backfilm, la première société que j'ai créée, a démarré au moment où on a vécu une des plus grandes crises dans l'histoire du cinéma, qui était l'arrivée conjointe de toutes les télévisions privées en France, et qui a fait que le nombre de spectateurs qui allaient en salle de cinéma est passé de 180 millions à 110 millions en l'espace de 3 ans. Ça a tué beaucoup de distributeurs, mais fort heureusement, l'ensemble des salles françaises a décidé d'investir. Nous avons continué, les distributeurs, d'investir, les producteurs aussi. Et aujourd'hui, on est à 220 millions de spectateurs par an. On peut faire encore mieux si demain, la lutte contre la piraterie fait que nos contenus ne soient pas volés par des internautes.
Et ça, c'est votre autre combat. On en reparlera peut-être une autre fois avec vous. Merci beaucoup, Jean Labbadie.
Avec grand plaisir.
À la tête de la société Le Pacte, qui produit et distribue des films, donc, et notamment le dernier Mayo qui était sorti juste avant ce confinement. On le retrouvera à la rouverture des salles, j'imagine.
Et qui va ressortir très vite.
Voilà. Et puis il y a Le Discours aussi qui arrive, adapté du roman de Fab Caro.
Absolument.
Ça, j'ai eu la chance de le voir et je le conseille d'ores et déjà à nos auditeurs. Merci beaucoup, Jean Labbadie.
Merci.
Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Ce sera notre séquence Les films de ma vie. Et à quelques jours de la proclamation du vainqueur du Goncourt, eh bien, l'un de ses grands favoris, Hervé Le Tellier, va partager avec nous ses plus grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve dans Clap pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe, une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et cette semaine, c'est l'écrivain Hervé Le Tellier qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là, physiquement en plus.
Parce qu'en ce moment,
voilà, on est face à face dans un studio
présentiel.
À l'occasion de la sortie de votre dernier roman, L'Anomalie, dont on imagine d'ailleurs assez bien une adaptation au cinéma. Je ne sais pas si c'est dans les tuyaux.
C'est dans les tuyaux.
Ah,
ouais.
C'est dans les tuyaux.
Ouais.
Mais c'est en négociation, vous ne pourrez pas m'en dire plus.
Voilà.
Bon, bah alors on va faire notre petit questionnaire. C'est parti. Votre premier souvenir de cinéma ?
Les Cheyennes. Je ne sais pas, c'est 68. C'est un de mes premiers souvenirs, avec peut-être aussi La Mélodie du Bonheur. Voilà. Sans oublier peut-être des Disney... Mais bon, cinéma, quelque chose qui ne s'apparente pas vraiment à l'image animée, je dirais que c'est les Cheyennes.
Aujourd'hui, John Ford porte à l'écran pour Warner Bros. Le très grand roman historique de Mary Sandoz, Les Cheyennes. Réalisé en Technicolor et en Super Panavision 70 mm, Les Cheyennes est interprété par James Stewart et Edward G. Robinson.
Je crois que je l'avais vu au Grand Rex. Donc, dans un cinéma un peu mythique, et qui à l'époque, en plus, était vraiment... quand on est petit, déjà le Grand Rex c'est grand, mais quand on est petit, le Grand Rex c'est très très grand. Donc j'avais une impression d'être dans une sorte déjà c'était les Cheyennes, donc les grands espaces américains, et qui se reproduisaient sur place, quoi. C'était épatant.
Votre meilleur souvenir en salle?
Je crois que c'est assez récent, parce que en général les meilleurs souvenirs c'est toujours des choses assez récentes, et je dirais que c'est Interstellar.
Avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière.
Et encore avant, alors ça paraît deux films entre guillemets catastrophes, un peu avant, c'était Mélancolia de Lars von Trier.
Phase d'allumage moteur principal H-10.
Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider.
Des films très marqués tous les deux.
Oui, très marqués tous les deux par l'idée de la destruction, de quelque chose de très spatial. Mais c'est aussi lié au fait que c'est des films qu'on a envie vraiment de voir au cinéma pour bénéficier de tout ce qui est une salle de cinéma.
Qu'est-ce qui se passe, Justine ? C'est une planète qui se cachait derrière le soleil. Et maintenant, elle passe près de nous.
J'ai peur de cette stupide planète.
Elle ne va pas nous heurter.
Tu me le promets.
Il n'y a de la vie que sur la Terre. Et plus pour longtemps.
Et Interstellar, ça m'avait vraiment beaucoup plu aussi, parce que j'aime bien chez Christopher Nolan la capacité qu'il a de respecter les logiques qui sont celles de la science. Et donc ce film, beaucoup plus que Tenet à mon avis, est un film de scientifique. Et le film de Lars von Trier, à mon avis, est un chef-d'œuvre, parce qu'il pose pour tous ceux qui sont dans la création, et pour tout le monde en général, la question de la création, parce que tout est détruit, quoi. Mmh. Il y a quelque chose d'incroyablement noir, de poser la destruction dès le départ, quoi. C'est l'anti-film, c'est le sad beginning, le contraire du happy ending, le sad beginning, et puis après, on est dans cette catastrophe imminente et on l'attend.
J'ai peur que la planète nous heurte quand même.
Et je trouve que c'est, du point de vue cinématographique, montage, un film merveilleux. On sort, je me souviens que j'ai regardé, c'était le soir, on regarde la lune et on a peur. Et ça, c'est une réussite du cinéma, de produire ce genre d'effet-là.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre, Hervé Le Tellier ?
Alors, il faut tomber au bon moment, évidemment, dans sa vie. Mais franchement, un film que je trouve formidable, c'est Groundhog Day, donc Un jour sans fin. Je trouve que si on tombe exactement là où il faut, c'est extraordinaire.
Il est prisonnier.
C'est le jour de la marmotte.
Un jour sans fin.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
Au début, c'était vraiment l'angoisse. Mais à présent,
on pourrait faire tout ce qu'on a envie de faire.
Il explore toutes les possibilités comme s'il n'y avait pas de lendemain. Parce que demain n'existe plus.
Il a pété les plombs.
J'ai vraiment énormément aimé ce film, quoi. Et je me rends compte que c'est une comédie américaine sentimentale, un peu nunuche, mais je l'adore quand même. Et puis j'adore les acteurs, quoi. Bill Murray est formidable. Voilà, c'est Andy McDowell, enfin bon, ils sont tous merveilleux. Mais à force de l'avoir vu, j'ai un petit peu honte de le dire, quoi.
Le chef-d'œuvre que vous détestez
Je pense que La Mélodie du Bonheur, je pense que c'est vraiment pas mal, mais je déteste ce genre de choses.
Mesdames et messieurs, les enfants du capitaine Von Trapp veulent vous souhaiter une bonne nuit.
Mais je lui reconnais je reconnais un côté chef-d'œuvre à ce truc, malgré tout.
Au revoir, farewell, au revoir et bonsoir.
Je garde l'espoir de bientôt vous revoir.
Et pourquoi vous le détestez ?
Je sais pas, c'est un truc d'enfance et puis un peu traumatique pour moi. Ça me rappelle des chansons que je chantais quand j'étais enfant. Down by hell, je sais plus ce que c'est. Down by hell, lonely goat head, yodeler, yodeler, houhou, ce genre de truc. Et ça m'a marqué en fait. J'ai vu ça petit en Angleterre et ça baigne mon enfance et j'ai pas trop aimé mon enfance. Donc ça rejaillit sur le pauvre film qui n'a pas mérité ça.
Qui avait rien demandé.
Qui avait rien demandé. Ouais.
Votre réalisatrice ou réalisateur préféré?
Alors, j'en ai forcément plusieurs. Truffaut, Fellini, et puis un réalisateur qui, à mon avis, pâtit du fait qu'il a tout fait, c'est Ridley Scott. Parce que Ridley Scott, c'est, contrairement à d'autres, c'est risqué à tous les genres, quoi. Et souvent sans se tromper, c'est-à-dire... Il a quand même relancé le péplum, il a lancé avec Alien, il a fait le premier film dans lequel l'espace était un endroit terrifiant. Donc il a quand même un savoir-faire, et puis il a fait aussi des films moyens. Mais j'aime bien cette idée qu'un réalisateur peut faire des films extraordinaires qui relancent entièrement des genres, et puis de temps en temps tomber à côté, quoi. Après tout, un aigle a le droit d'être parfois volé comme une poule. Hein.
Le film qui vous a fait le plus rire ?
Duck Soup, la soupe au canard des Marx Brothers, vraiment. Mais je l'ai revu, ça m'a fait moins rire, mais je crois que dans mes souvenirs, c'est celui qui m'a fait le plus rire.
Et vous le regardez quand vous avez un coup de mou ?
Non, je le regarde plus tellement parce que justement j'ai peur qu'il me fasse moins rire. Ça fait partie de ces choses qu'il faut surtout pas recommencer à faire. Non, ça m'a fait vraiment énormément, énormément rire. Sinon, il y a des choses des années vicieuses qui me font énormément rire. Franchement, le grand détournement...
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Ça reste quand même un monument, quoi. Il n'y a pas de problème.
Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, à Big Ball.
Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Va te faire mettre.
Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Le film qui vous a fait le plus pleurer?
Un film de Mike Lee qui s'appelle Secrets et mensonges, et en anglais c'est Secrets and Lies. Et alors, dans cette scène, dans ce film, donc, il y a une scène qui est une. Alors, je sais pas, tout le monde se souvient pas forcément du film, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui est noire, c'est important dans le film, qui retrouve sa mère qui est blanche, qui au début ne croit pas que c'est elle sa fille, mais qui d'un seul coup se souvient des conditions dans lesquelles elle a eu cet enfant, elle a accouché sous X et n'a jamais vu la petite fille. Et donc cette femme noire retrouve sa mère. Et il y a cette scène de retrouvailles en famille où la mère n'ose pas avouer que cette femme qui l'accompagne est sa fille. Et il y a un dévoilement, mais ça fait pleurer. D'ailleurs, regardez.
Vous êtes encore ému.
Mais c'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. C'est une scène absolument incroyable sur la famille, sur la retrouvaille. Cette actrice qui joue, je ne sais plus son nom, mais elle est extraordinaire. Actrice anglaise. Avec ce côté incarnation d'une femme prolétaire anglaise de la banlieue sud de Londres, c'est d'un jeu merveilleux et c'est formidable.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami?
Un jour sans fin.
Encore?
Bah oui, je le dis, c'est le film, s'il l'a pas vu, faut quand même qu'il le voie une fois. C'est pas possible de passer à côté d'un film au scénario aussi fou, quoi.
Et le film que vous conseilleriez à votre pire ennemi?
Jeanne Dielman.
Pourquoi?
Oh, c'est long. C'est vraiment terriblement long. Je reconnais que c'est intéressant, c'est un moment du cinéma, mais c'est quand même très très long. Non, sinon, à mon meilleur ami, je recommanderais aussi, pour revenir un peu en arrière, L'homme qui aimait les femmes de Truffaut. Je trouve ce film merveilleux. Puis je trouve que Charles Denner, là-dedans, enfin, il occupe le film d'une manière merveilleuse, quoi. Et puis il est touchant, et c'est un très beau film, en fait, sur Truffaut lui-même, et sur son rapport aux femmes. Et je trouve ça un très très joli... film sur l'amour.
Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Elles sont des milliers tous les jours à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que toutes celles que je connais? Eh bien, justement, ce qu'elles ont de plus, c'est qu'elles sont des inconnues.
Et la bande originale qui a le plus marqué votre vie, Hervé Letellier?
2001. La bande originale de 2001, Odyssée de l'espace. Et celle d'Orange Mécanique. En fait, les bandes sonores qui sont celles des films de Kubrick... Je trouve ça fascinant. Tout, absolument tout chez Kubrick dans le montage du son m'a toujours vraiment étonné. Et en particulier, je sais pas, Barry Lyndon. Enfin, les choix musicaux de Barry Lyndon sont incroyablement fins et subtils. Même dans Eyes Wide Shut, enfin le choix musical de Kubrick est toujours incroyablement intelligent. On m'a raconté qu'il avait pris comme son la valse de Strauss. Pour la rotation de la station spatiale, on m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, qu'un jour on lui a passé l'image et qu'il a simplement dit en studio, vous n'avez pas un truc à écouter pour que je vois à quoi ça ressemble parce que je ne regarde jamais des images sans qu'il y ait du son. On lui dit, on n'a rien, on a juste ça. Il dit, bon, mettez-le. Il écoute, il regarde avec ce truc qu'on lui a trouvé qui est la valse de Strauss et il fait, on va le garder. Et je trouve ça génial parce que, en fait... D'autres idées étaient possibles, il pouvait commander une musique, et ça, c'est tellement intelligent, c'est tellement un décalage, on s'attend tellement pas, et il y a tout le temps ça chez Kubrick, hein, c'est formidable.
Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu répondre à ce questionnaire dans Clap, l'émission cinéma d'Europe 1. Et je rappelle votre dernier roman, L'Anomalie. Je rajoute des louanges à toutes celles qu'on a pu déjà lire.
C'est gentil,
merci. Vous n'avez pas forcément besoin, mais quand même, je le dis à nos auditeurs. Non,
vous vous trompez,
surtout
les
en ce
auteurs
moment,
on a toujours besoin.
Et surtout en ce moment voilà, où les librairies sont ouvertes en click and collect, ou en tout cas on peut acheter des livres. Donc
c'est ça, elles sont fermées en click and collect.
Voilà, c'est ça, elles sont fermées mais ouvertes. Ouais. On peut acheter des livres avant de retourner au cinéma dès que les salles rouvriront. Merci beaucoup d'être venu partager votre passion pour le cinéma. Nous, on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de Clap, le temps d'accueillir en studio mes collègues critiques.
Clap, Mathieu Charrier.
Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir dans ce studio d'Europe 1 Fabrice Leclerc de Paris Match et Thierry Chaise du magazine Première pour débattre des films à voir ou à revoir sur les plateformes ou en DVD VOD. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Je voudrais qu'on commence, si vous le voulez bien, par La Voix du Succès, que personnellement j'avais bien aimé lors de sa sortie en salle et qui n'avait pourtant pas du tout rencontré son public. Il sort en DVD VOD, alors est-ce que c'est l'occasion de se rattraper? On va en parler dans un petit instant.
Je vous entends pas des fois.
J'ai grandi dans la musique. Si tu m'avais dit quand j'étais gamine qu'un jour je bosserais pour Grace Davis, c'est une légende. J'avais envie de tenter ma chance.
Mais enfin, pour qui tu te prends, Missy Elliott?
C'est une question de confiance et de dévouement.
Je veux faire partie de l'aventure.
La Voix du Succès, qui est un feel-good movie avec l'histoire de Maggie, incarnée par Dakota Johnson. C'est l'assistante d'une star de la pop qui s'appelle Grace Davis. C'est elle, vous savez, qui doit récupérer son jus le matin dans un commerce bien spécifique, faire le plein de sa grosse voiture de sport. Voilà. C'est son assistante de vie au sens large. Mais Maggie, elle, rêve d'une chose, devenir productrice de musique. Alors, quand le producteur de Grace Davis veut l'enfermer pour des années dans des concerts à Las Vegas, vous voyez, type Céline Dion, eh bien Maggie va lui soumettre une autre idée. C'est attendu, c'est une belle histoire d'amitié entre une star et une anonyme qui va profiter aux deux. Il est aussi question d'amour dans tout ça sur fond de musique. Voilà, c'est joliment fait, on sait ce qu'on va voir. Fabrice Leclerc, est-ce qu'il faut le voir en DVD, VOD?
Écoutez, si vous aimez le sirop, oui. Non, mais ce qui est intéressant avec ce film, c'est que moi, j'y ai pris du plaisir.
Mais oui, voilà, c'est ce que
alors,
je dis.
J'y ai pris du plaisir, parce que j'aime prendre du plaisir au plaisir coupable. J'aime beaucoup les plaisirs coupables. Et c'est un plaisir coupable. Pourquoi? Parce que c'est du cinéma hollywoodien, oui. Comme on en a vu 500 000 fois. Oui. C'est produit au kilomètre. C'est un peu le Lidl de la comédie romantico, feel good movie sur base de musique. Il y a des petites choses intéressantes, notamment une petite satire du monde de la musique américain qui est plutôt bien vu, des apparitions de Diplo, de Ice Cube, je crois, voilà. C'est très drôle, mais enfin, ça fait pipi tellement pas loin qu'il y a un moment, voilà, plaisir coupable. Moi, c'est un film que je regarderai sur TF1 à 14h entre deux téléfilms de Noël, mais sinon, voilà, quoi.
Oh, un petit coup de VOD pendant ces fêtes de fin d'année, c'est pas désagréable. Thierry Chaise, La Voix du Succès.
Mais pas avec moi, en tous les cas. Si vous venez chez moi, c'est pas ce qu'on regardera, je vous le dis. Non, je partage ce qu'a dit Fabrice. Vraiment, moi, je suis en plus extrêmement client de ça.
Moi aussi.
Ça me dérange pas qu'on sache qu'on va aller de A à Z là, en passant par toutes les lettres. Ça me dérange. Mais là, il manque ce tout petit quelque chose. Alors, c'est peut-être que Dakota Johnson n'est pas l'actrice la mieux pour ce genre de film-là, où il y a des gens un peu plus pétillants, où une Zoé Deschanel amène quelque chose. C'est qu'il n'y a personne qui, d'un seul coup, fait à un moment un tout petit peu, je ne demande pas grand-chose, un tout petit peu sortir du cadre. On prend un petit chemin de
non.
Une petite route départementale avant de revenir sur l'autoroute, mais non. Voilà, on fait un arrêt. Non. Et c'est ce problème-là, c'est qu'il n'y a rien qui vient empêcher la route longue.
C'est un film qui a une autorisation de sortir pendant une heure. En fait, c'est un peu ça, vous voyez. Non, mais la star forcément méchante, la jeune assistante qui va la regarder avec les yeux de l'amour et qui va finir par devenir elle aussi une star.
Vous avez commencé en disant que vous aviez pris du plaisir.
Ouais, j'ai décidé, on va aller revoir A Star Is Born. Une des versions. Bon. N'importe
Mathieu,
laquelle. Bon. Mais franchement, un peu de cinéma, ça ne fait pas de mal.
Eh bien, je garde mon DVD de La Voix du Succès.
Je vous l'offrirai pour Noël, si jamais.
Clap.
Deuxième film, là, je pense que tout le monde va être d'accord, dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est le très beau Madré.
Ça fait combien de temps que je suis là? Des hommes. Des enfants, vous en avez pas?
Vous êtes pas française? Espagnole?
Ouais.
Ah ouais? Vous savez que je parle espagnol? Yo me llamo Jean.
Madré, signé du réalisateur espagnol Rodrigo Sorogoyen, qui avait aussi fait, je vous en rappelais peut-être, les formidables Que Dios nos perdone et El Reno. C'était des films policiers sur fond de chronique sociale. Là, c'est l'histoire du deuil impossible d'une mère qui a perdu son enfant. Je vous décris juste la scène d'ouverture, les quelques premières minutes. Elena est dans son appartement. Au bout du fil, son fils de 6 ans, qui est en vacances en France. Il est seul sur une plage des Landes. Il a perdu son père, il panique. Écran noir. On retrouve Elena quelques années plus tard. Elle travaille désormais dans un restaurant de bord de mer sur la côte landaise. 10 ans que son fils a disparu, lorsqu'un jour elle aperçoit un groupe d'adolescents et semble le reconnaître. Je ne vous en dis pas plus. Thierry Chaise, Madré.
Alors, j'ai bien aimé.
Ah, mais quand même.
Mais
c'est tout.
Ouais, et ben oui, à ma grande surprise. Alors, ce que vous avez décrit là, c'était un court-métrage qui avait eu il y a quelques années. Et cette scène d'ouverture est absolument extraordinaire. Et toute la mise en scène de ce film est absolument... Donc, pourquoi je vais pinailler? C'est parce que forcément, je m'attendais... On attend beaucoup de ce réalisateur-là. J'aime l'actrice principale. J'aime les rebondissements, cette idée. Bon, on comprend assez vite si oui ou non, c'est le fils. Et on y va. Je trouve qu'il est un peu moins à l'aise, mais c'est toujours le problème que j'ai avec des gens qui ne parlent pas français, pour diriger les gens en français. Et que les dialogues qui passaient chez moi très bien en espagnol, là, par moment, butent un peu plus, malgré de très bons acteurs. Donc c'est toujours... Mais j'ai ce problème-là. Je l'avais eu beaucoup quand Tarantino avait joué en France. Je l'ai beaucoup avec plein de cinéastes. Ceci dit, le reste est vraiment très, très impressionnant dans justement une histoire qui peut se résumer en une ligne, comme vous l'avez fait, et comment on tient deux heures là-dessus, sans jamais s'ennuyer, avec des rebondissements qui tiennent, avec quelque chose à fleur de peau, qui fait que, oui, j'ai mis un petit bémol, mais malgré tout, évidemment qu'on le voit et qu'on le revoit.
Plus que La Voix du succès. Fabrice Leclerc, Madré.
Ben vous l'avez dit aussi, un film de metteur en scène. Et quel metteur en scène? Je crois que cette scène d'ouverture où elle écoute la disparition plus ou moins évidente de son fils au téléphone est un prodige total de mise en scène. Ensuite, il a le parti de suivre cette femme avec des plans très longs, avec un cadre très posé. Ça change des films précédents, et notamment El Reno, qui pour moi, je pense, un chef-d'œuvre quasi absolu. C'est un grand metteur en scène qui est dans un registre un peu plus de l'émotion, du drame. C'est peut-être pas là où je suis d'accord, c'est peut-être pas là où il est le plus à l'aise. Et puis, il y a des acteurs absolument superbes, notamment la présence de Frédéric Pierrot, qui est un grand acteur français qu'on avait vu dans Police, évidemment, et qu'on verra fin janvier dans la série de Nakash Toledano, qui ont adapté In Treatment en analyse, série qui sera diffusée sur Arte. J'en ai vu quelques épisodes, c'est absolument extraordinaire, et c'est un acteur génial.
Voilà pour Madré, que vous retrouvez désormais en DVD VOD. Clap. Et justement, Fabrice, vous parliez d'Arte. Ben, je voulais qu'on parle aujourd'hui d'un documentaire.
C'est pas tous les jours.
C'est pas tous les jours, mais justement, on en profite en ce moment. Le nouveau documentaire signé Sébastien Lifshitz. Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines maintenant dans cette émission longuement pour adolescentes. Et donc, son nouveau documentaire sort directement sur Arte. C'est diffusé mercredi soir. Et après, vous pouvez le retrouver sur la plateforme d'Arte, arte.tv. Ça s'appelle Petite fille.
À l'école, on n'accepte pas, en tant qu'adulte, Sacha telle qu'elle est. Non, non, Sacha n'a pas la vie qu'elle mérite. On la prive de son enfance. Sacha, on lui prend tout. Je vois pas en quoi ça dérange les gens. Parce que sur un papier, c'est écrit sexe masculin, ma gamine passe à côté de son enfance. Je trouve ça dégueulasse.
Et le documentariste a suivi pendant de longs mois le combat d'une mère et de sa fille née dans un corps de petit garçon. Elle s'appelle Sacha, elle a 7 ans. Et depuis ses 3 ans, eh bien, elle sait, elle se sent être une fille bien qu'enfermée dans son corps de garçon. Sa famille l'accepte totalement, vous le voyez à l'écran, et la soutient d'ailleurs, son papa, son frère, sa sœur, tout le monde comprend. Mais il y a un problème notamment, c'est l'école. Pas ses camarades de classe, pas tous en tout cas, mais plutôt son directeur et les enseignants de cette école qui, eux, ne comprennent pas, n'acceptent pas, ne veulent pas l'inscrire sous le sexe féminin. C'est là que va débuter le combat de cette maman. Franchement, si vous pleurez pas de sang devant ce film, je ne comprendrai pas. Thierry, il faut absolument le voir.
Ah, moi j'ai adoré. J'ai littéralement adoré. Je ne cesse d'être surpris par Sébastien Lifshitz. Pour moi, Adolescente en salle était le meilleur film de l'année. Voilà. Ça vient aussi vite après. Et vraiment, sa capacité à la fois se mettre à hauteur d'enfant, et vraiment à hauteur d'enfant. C'est pas un adulte qui surplombe, mais on rentre dans l'intimité de cette petite fille, sans nous mettre dans une position de voyeur. En même temps, de suivre le combat de ses parents, cette mère et tous les autres, incroyablement aimants, sans que ce soit sirupeux. Il ne fait pas un film politique du tout, il décrit une situation. Et du coup, puisqu'il décrit, forcément, on est ému, forcément, on est agacé par moments, et puis, on se dit que, oui, c'est vrai que le corps professoral et peut-être la direction dit c'est pas possible. Je pense que derrière, il y a la partie cachée de l'iceberg qui est les autres parents, parce que je pense qu'ils ont cette réaction-là. Et c'est une manière de raconter un sujet théorique par cas pratique brillantissime.
Fabrice Leclerc, quelque chose à ajouter?
Alors écoutez, je vais vous parler des films de metteur en scène. Ah mince, j'en ai déjà parlé pour Madré. Ben non, voilà, encore un film de metteur en scène. Sébastien Lipschitz, c'est quelqu'un, on l'a vu dans Adolescente, évidemment que c'est un grand film qui était sorti en salle à la fin de l'été. Sébastien Lipschitz, il sait à la fois faire oublier entièrement sa caméra. C'est-à-dire qu'il y a un moment, nous-mêmes, on ne voit plus la caméra, le procédé du documentaire. Et son deuxième énorme talent, c'est qu'il sait, dans ce cinéma documentaire au plus proche du réel, faire du cinéma, raconter une histoire, avoir des personnages devant lui qui ne jouent pas, mais qui pourraient être de tellement beaux personnages de cinéma. C'est un film, évidemment, où on pleure. C'est un film qui dit tellement de choses. C'est un film essentiel, et oui, que je vous sur-reconseille et reconseille encore une fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir La Voie du succès, vous regardez une deuxième fois. D'accord ?
C'est-à-dire que c'est ces documentaires qui disent beaucoup plus de choses que beaucoup de films fictionnés.
Évidemment.
Petite fille, et je vous le redis, vous trouvez ça sur Arte, soit en direct mercredi soir prochain, enfin diffusion en direct, soit en rattrapage arte.tv. Petite fille, signée Sébastien Lifshitz.
Clap.
Et puis on va finir un peu plus rapidement, car je crois que Monsieur Thierry Chaise n'a pas vu ce film, mais par le nouveau film de Ron Howard, Une ode américaine, disponible sur Netflix.
Je croyais que tout se passerait bien pour ta mère. Qu'elle serait comblée. Mais toi, si tu veux devenir quelqu'un, tu dois encore te prendre en main. À toi de voir. T'as toujours une bonne raison. À un moment donné, il va falloir que tu prennes des responsabilités. Sinon il faudra que quelqu'un intervienne.
Et qui ça, hein? Qui? Toi, peut-être?
Un court résumé, c'est adapté du livre autobiographique de Jed Evans, best-seller aux États-Unis. C'est une fresque, tout simplement, qui suit un jeune homme promis à une belle carrière d'avocat quand il doit aller retrouver sa famille originaire des Appalaches pour prendre soin de sa mère droguée. Fabrice Leclerc, Ron Howard, c'est forcément votre cam.
C'est forcément ma cam, même quand il même quand il fait solo, sauf que là, non.
Ah bon?
Bah non.
Solo, le Star Wars, vous l'aviez défendu.
Bah écoutez, oui, parce que pour moi,
on le cherchait.
Et c'est moi qui ai vu le film et c'est moi qui l'ai défendu.
Xavier Dupont de Ligonnès et celui-là. Donc on a déjà une énigme résolue.
C'est pas mal.
Voilà, mettez-vous à deux, de toute façon, je m'en fiche.
Bon, alors, une ode américaine.
Une ode américaine, ok, mais enfin, Ron Howard, il sait faire du cinéma et lui aussi, c'est quelqu'un à qui on ne l'a fait pas. Hein. Il a tourné de grands films. Pourquoi cette surenchère totale et constante dans ce film ? C'est-à-dire, on est dans un surenchère d'acteurs qui jouent des personnages qui, outre la façon de jouer, il y a franchement un moment où le rôle à Oscar, c'est bon, quoi. Stop, on arrête. Non, non, là franchement non. Pour
même,
le coup.
Même sur Netflix un soir.
Même sur Netflix.
Non, mais sur Netflix, c'est pas péjoratif, mais.
Bah si.
Mais non, ce que je veux dire, c'est qu'on est abonné, on se pose le soir dans son canapé, c'est facile de cliquer. Même pour ça, vous dites non.
Mais d'accord, mais regardez Plus belle la vie, c'est beaucoup plus intéressant que ça et vous n'avez même pas besoin d'un abonnement. C'est sur France 3 gratuit.
Vous aurez donc assisté à Fabrice Leclerc qui perd sa carte de critique cinéma dans Clap. Merci beaucoup, messieurs. Fabrice Leclerc de Paris Match, Thierry Chaise du magazine Première. Merci d'être venu une nouvelle fois débattre de tous ces films. On a donc parlé d'Une ode américaine, ça c'était le dernier sur Netflix, de Petite fille qu'on vous recommande à l'unanimité, ça c'est pour Arte, de Madré en DVD-VOD et de La Voix du succès également en DVD VOD.
Ou pas.
Ou pas. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On va commencer à reparler des films qui vont sortir en salle dans ces prochaines semaines, puisqu'on sait que les salles vont enfin pouvoir rouvrir. Donc rendez-vous 14h samedi prochain sur Europe 1 pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Merci à Nicolas Baudin qui réalise cette émission, Marjorie Adelson qui la prépare et qui va bientôt pouvoir retourner à la sortie des salles, recueillir vos impressions, parce qu'on aime bien entendre aussi ce que vous pensez des films. Et n'oubliez pas également de nous podcaster sur toutes vos plateformes. Vous tapez Clap et vous vous abonnez, merci.
Europe 1.